bonjour à tous. Nous sommes sur Radio Tintouin. Pierre avait déjà commencé à parler, mais les micros n'étaient pas allumés. Mais ce n'est pas grave, c'est ça un petit peu le direct. Et puis Radio Tintouin, nous on démarre, donc on a encore beaucoup à apprendre. Donc je pense que vous nous écoutez parce qu'on n'a pas fait les tests de micro. Ça marche, il me semble. Donc voilà, je prends la parole parce que mon micro, c'est sûr qu'il marche. Donc je laisse la parole à Pierre qui va lancer l'émission. Et on espère que les micros vont fonctionner parce qu'on n'a rien testé du tout. C'est ça, Radio Tintouin, on démarre. Et merci de votre indulgence. À vous, à toi Pierre.
Alors, je présentais le thème tout à l'heure, mais ça ne marchait pas alors. Donc on fait une émission ce soir sur, le mouvement Nuit Debout. Avec trois invités, Louise qui nous parlera plus particulièrement de ce qui s'est passé place de la République, Marie-Hélène et Céline qui sont les initiatrices un petit peu du mouvement Nuit Debout à Vierzon qui existe depuis combien de temps déjà ? Plus d'un... Depuis le 26 avril, donc plus d'un mois déjà. Voilà. Donc pour commencer, peut-être on va débuter par Paris, là où le mouvement a émergé, place de la République. Alors Louise, peut-être que tu peux nous commencer par nous présenter ce qu'est ce mouvement Nuit Debout, qui est à l'initiative de ces réunions qui se tiennent place de la République, qu'est-ce qui s'y passe. Voilà, tu as la parole pour présenter ça aux auditeurs.
Merci Pierre. Bon, c'est un peu difficile de présenter le mouvement Nuit Debout en quelques minutes. Ce que je peux dire sur le démarrage, c'est que l'enjeu qui est né lors des manifestations contre la loi travail, ça a été de casser les formes traditionnelles de grève et de lutte sociale, qui était de faire une manifestation de 14 à 20 heures, en gros. Et donc, voilà, à peu près deux semaines avant le début de la Nuit Debout, des acteurs se sont retrouvés, beaucoup d'acteurs de différents mouvements militants se sont retrouvés place de la Bourse et ont réfléchi à comment faire autrement. Et c'est là qu'est né le mot d'ordre, en partenariat notamment avec le journal Fakir, qui était « on ne rentre pas chez nous ». On fait la manifestation du 31 mars et ensuite on occupe une place. Et donc c'est là qu'a eu lieu la première soirée Nuit Debout où il y a eu des concerts, où il y a eu une assemblée générale, où il y a eu une diffusion du film Merci Patron en plein air. Et contrairement à toute attente, le mouvement a perduré et donc maintenant aujourd'hui c'est le 100 mars.
Aujourd'hui là, on aujourd'hui, fête le 100 mars. Ouais. Parce que le compteur est resté bloqué en mars, c'est ça.
C'est ça, le temps s'est arrêté.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe exactement sur cette place de la République ? On a l'impression qu'il y a énormément de discussions, d'idées qui sont émises, qu'il y a des commissions qui sont mises en place pour plancher sur différents thèmes, à la fois sur l'écologie, sur la refonte de l'économie, etc. Ça a l'air très vaste comme ça. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce qui est en train de germer là-bas ?
Alors, ce qui est important déjà sur le fonctionnement, c'est que c'est un fonctionnement qui est complètement ouvert à toute proposition, d'où un foisonnement d'idées, de commissions, de groupes en tout genre. Et c'est aussi un fonctionnement qui repose sur l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de ligne directrice, personne ne parle au nom du mouvement Nuit Debout. Ça, ce n'est pas, en théorie, ce n'est pas possible. Et donc, comment ça se passe concrètement sur la place de la République ? C'est que l'autorisation d'occuper la place... Voilà, ça commence assez tard dans la journée, c'est-à-dire voilà, en début d'après-midi, et c'est jusqu'à 11h ou minuit. Et donc pendant ce temps-là, il y a des personnes qui viennent sur la place et qui s'organisent, qui se retrouvent pour discuter. Il y a l'Assemblée générale qui a lieu tous les jours, je crois que c'est de 18h à minuit, où il y a une succession de paroles libres ou sur un thème. Et il y a tout un foisonnement de commissions, donc à la fois des commissions thématiques sur l'économie, sur l'écologie, sur la démocratie. Mais il y a aussi beaucoup de commissions qui sont sur l'organisation. Il y a une commission action, il y a une commission logistique, une commission sur la presse, une radio. Et après, c'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont extrêmement variés. Il y a des thèmes parfois, il y a des événements. Mais globalement, on trouve de tout et c'est cette variété qui est intéressante.
Donc ça va bien au-delà de la loi travail, finalement. Ça devient une sorte de laboratoire pour un nouveau monde, pour remettre en cause le capitalisme dans sa globalité.
C'est sûr que la loi de travail a été le point de départ des Nuits Debout et qu'à présent, le mouvement est évidemment bien plus large. Mais je pense aussi que c'est toute une série de facteurs d'événements au long des dernières années qui a permis l'émergence de ce mouvement qui remet en question, effectivement, pas seulement la loi de travail, mais la démocratie, l'économie, la politique et toute une foule de sujets. Tout peut être abordé là-bas.
C'est quoi les facteurs, selon toi, qui ont permis l'émergence de Nuits Debout ces dernières années ?
Eh bien... Sur cette année-là, déjà, bon, il y a la loi travail, mais il y a aussi, avant, la loi Macron, il y a aussi la réforme des retraites, avec des mouvements sociaux très durs qui n'ont pas marché. Et puis, par ailleurs, il y a les attentats, il y a l'état d'urgence, les perquisitions à domicile, des interdictions de manifester. Et après, sur un contexte plus large, alors moi, je ne suis pas économiste, mais il me semble quand même qu'il y a une dégradation ces dernières années, et que qui est aussi liée peut-être à l'Union européenne, et que c'est de cette contestation, en tout cas de cette colère qui gronde et qui n'arrive plus à s'exprimer dans les urnes, et aussi d'une déconnexion avec nos politiques, que naît un tel mouvement. C'est ça qui permet que le mouvement existe.
Oui, finalement, il y a un ras-le-bol général et une envie de passer à autre chose. De remettre en cause globalement un système.
C'est ça, et de le remettre en cause en sortant des formes traditionnelles de lutte. Par exemple, y a des syndicats qui agissent aussi avec Nuit Debout, mais Nuit Debout est à part. Nuit Debout est à part des partis politiques, à part des syndicats. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, par exemple, j'ai des convictions, mais je ne suis pas forcément dans un mouvement politique, je ne suis pas forcément militante active. Et c'est vrai que me retrouver sur une place où il y a des milliers de personnes avec qui je peux discuter, avec qui je peux faire des choses tout de suite, de façon horizontale, c'est d'une extrême richesse.
Malgré tout, cette ouverture, elle n'est pas totale, j'imagine. Si quelqu'un vient avec des idées d'extrême droite, dire qu'il faut chasser les immigrés au micro, il va se faire éjecter de la place, j'imagine, non ? Il y a quand même un certain contrôle de la parole, ou en tout cas une certaine homogénéité dans le public qui s'y pressent, enfin dans la position sociologique des citoyens qui s'y réunissent.
Ce que je peux dire déjà, c'est que sur le cadre des Nuits Debout, il y a une commission qui s'appelle Accueil et Sérénité, et c'est cette commission qui va empêcher que quelqu'un qui a des idées, décalées par rapport à la majorité, ne se fasse jeter de la place de la République. Donc en tout cas, il me semble qu'au niveau du dispositif Nuits Debout, il est tout à fait possible de venir avec une opinion qui soit à contre-courant. Après,
ils peuvent l'exprimer sans...
Après, dans la réalité, c'est vrai que toutes les personnes qui sont là partagent globalement les mêmes valeurs. Donc il y a quand même... C'est vrai qu'il y a des opinions qui sont plus ou moins bien accueillies. Mais après, moi, j'ai vu en Assemblée générale des personnes qui avaient des opinions contraires et où ça se passait très bien. Parce qu'en plus, il y a un système de gestes. Il y a un système de gestes lors des Assemblées générales qui permet de dire stop, qui permet de faire une opposition radicale. Mais je ne peux faire une opposition radicale que si j'ai autre chose à proposer, que si je rentre dans le débat. Et donc ça favorise quand même la discussion. Après, bien sûr, il y a des fois où ça se passe moins bien, mais ça, je pense que c'est humain aussi.
Alors qu'est-ce qui sort de toutes ces discussions ? Il y a des textes qui sont écrits. J'ai vu qu'il y avait notamment la commission écologie avait sorti un texte qui a circulé un petit peu sur des sites internet, qui avait été repris par Reporter, par exemple. Qu'est-ce qui est fait de toutes ces discussions, finalement ? Est-ce qu'il y a des sortes de cahiers de doléances qui sont en train de se faire ?
Alors oui, il y a une commission cahiers de doléances.
D'accord.
Oui, notamment pour une nouvelle constitution et en reprenant ce qui s'est passé en 1789, où il recueille des témoignages, des idées, des propositions de plein de personnes. En fait, ce qui se passe, je crois, c'est que Nuit Debout ne produit pratiquement rien ou rien. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un mouvement politique, c'est pas une démarche militante de construction d'un autre monde, il n'y a personne qui parle au nom de Nuit Debout, donc il n'y a pas de livre, il n'y a pas de production Nuit Debout. Mais après, bien évidemment, de toutes ces commissions naissent un foisonnement d'actions. Il y a des actions concrètes, par exemple des blocages de McDonald's à Paris, ou des actions de soutien pour les grèves, où il y a eu beaucoup d'actions de soutien aux migrants, notamment par le biais de manifestations sauvages. Et puis, il y a une grande production, tu l'as dit, sur la commission écologie, il y a une grande production qui se fait au niveau des médias. J'entends par médias ce qui se passe au niveau de la communication. Il y a Nuit Debout, il y a Radio Debout, il y a Gazette Debout, il y a Télévision Debout. Et donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent de Nuit Debout. Mais après, comme rien n'est centralisé et comme rien n'est fait au nom de Nuit Debout, c'est impossible de suivre le cours de toutes les actions.
Et toute cette production, qu'est-ce qui en est fait ? Elle circule sur la place, ou est-ce qu'il y a un projet éventuellement de publication plus tard de toute cette littérature qui est en train de se produire sur place ?
Il n'y a pas de projet Nuit Debout, en fait.
Pour l'instant, non, ça circule, voilà.
Mais ça circule et tout est disponible sur Internet, la radio D'accord. est disponible sur Internet, les articles, ou sur la place de la République directement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, de production Nuit Debout à proprement parler, non.
D'accord. On fait peut-être une petite pause musicale.
Et on va faire une petite pause musicale avec Mercedes Sosa, Todo Cambia, Tout Change, et en espérant effectivement que les choses comme Nuit Debout vont faire changer les choses.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de
Donc c'était Mercedes Sosa, une grande chanteuse argentine qui malheureusement est décédée. Je vous invite à l'écouter. C'était une personne très engagée avec des chansons qu'elle reprenait du folklore argentin. Mais c'était vraiment quelqu'un, une grande dame. Maintenant, nous reprenons la parole avec, vous êtes bien sûr, donc Radio Tintouin, l'émission Cause Toujours, Tu m'intéresses, avec Pierre et Claude, nos animateurs préférés, qui reçoivent trois dames aujourd'hui. Et donc, nous avons eu Louise pour Nuit Debout Paris, qui nous racontait un petit peu ce qui se passait à Paris. Je pense qu'elle reprendra la parole. Et si j'ai bien compris, parce que moi, je suis aux manettes, maintenant, on va évoquer Vierzon. Qui veut prendre la parole ? Est-ce que c'est Claude ou Pierre ?
Alors, je vais la prendre, allez. Parce que donc, c'est vrai que Nuit Debout est née à Paris, mais rapidement essaimée dans toute la province, comme on dit. Jusque chez nous, dans le Berry, à Bourges, il y avait des rassemblements. Je crois que c'est eux qui ont commencé dans notre secteur. Et puis, il y a eu Vierzon, avec quelques initiateurs et initiatrices, surtout, qui ont pris cette initiative. Céline et Marie-Hélène, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de reprendre cette idée, de créer également à Vierzon des rassemblements Nuit Debout. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée ?
L'idée, c'était d'amener ici aussi de libérer la parole, et notamment par rapport à la loi travail dans un premier temps, mais libérer la parole en général. Nous avons sur Vierzon des lieux de discussion et de débat, pour ma part en tout cas, je trouve que ça reste des lieux fermés. Et l'avantage de Nuit Debout de le faire sur une place publique, c'est que c'était ouvert à tout le monde, visible de la rue. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc on a lancé ce mouvement sur Vierzon à partir du 26 avril.
Un jour de manif.
Le 40 et quelques mars, ou 50 mars, quelque chose comme ça. Un jour de manif. Le soir de la manif, on s'est donné rendez-vous sur l'esplanade de la Société française.
Alors le premier rendez-vous, il y avait quand même plus de 60 personnes. Il y a même un moment, on a compté 75. Donc pas mal de gens qui venaient voir. Par contre, il y en a assez peu qui se sont exprimés. C'était plus une curiosité. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand même, au bout d'un moment, sur la loi travail, c'est parti. Il y a des gens qui ont parlé de leurs conditions, de ce qu'ils vivaient tous les jours dans leur usine ou sur leur lieu de travail. Après, ça a été un petit peu difficile sur les semaines suivantes. On a peiné un peu, on a donné rendez-vous après la manifestation du 1er mai. Finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça à midi. Ce jour-là, les gens, ils avaient des invités, ils allaient manger, ils avaient des habitudes avec leurs copains. Donc, on s'est retrouvés un petit peu entre nous. Ensuite, on a donné rendez-vous le mercredi, la veille de l'Ascension. C'était encore une veille de fête. Là, il y avait une vingtaine de gens, entre 20 et 30, une vingtaine de personnes. Et puis, ensuite, on a institué le rendez-vous tous les jeudis. Donc voilà, maintenant, c'est tous les jeudis, à partir de 20h, sur l'esplanade de la Française.
Tu disais qu'il y avait une difficulté à ce que les gens prennent la parole. Comment essayer justement de casser cette... C'est vrai qu'on a tendance à venir à des débats un peu en consommateur et à écouter ce que les gens disent sans forcément oser soi-même prendre la parole, parce que c'est vrai que ça demande un certain courage malgré tout de s'exprimer en public. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde, même. Enfin, pour moi, par exemple, c'est pour des gens un peu timides, c'est pas simple de s'exprimer devant 60 personnes. Et comment essayer d'investir davantage les gens et de pas limiter les tours de parole à quelques habitués, finalement ?
C'est là que réside toute la difficulté, hein, je trouve.
Je pense que
voilà.
Pierre, si tu peux éviter. arrêter de maltraiter le micro parce qu'on entend, à chaque fois que tu le bouges, on entend le micro. On prend la parole, Marie-Hélène. Excuse-moi.
Oui, c'est la difficulté. Il y a même, quand on propose aux gens, on leur demandait, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de venir sur cette place? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais c'est assez anxiogène de devoir parler dans le micro, finalement. Alors après, nous, on a l'habitude, on est assez conviviaux, il y avait des petits gâteaux, tout ça. Autour des tables, ça s'est un petit peu... ça s'est dégelé un peu, c'était plus convivial, et il y a des petits groupes de paroles qui se sont constitués.
Et en fait, les personnes ont plus tendance à parler les uns avec les autres en petits groupes, que s'adresser à toute personne, et finalement, on a plus tendance à parler dans l'entre-soi qu'à s'adresser à tout le monde. Et je comprends en même temps qu'il y ait des personnes qui ne soient pas habituées, quoi. C'est pas évident non plus de s'adresser à tout le monde.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas simple de s'exprimer devant un public, mais pour moi, ça n'a pas une grande importance. Je ne pense pas qu'à Paris, vu le monde qui vient à la République, que tout le monde s'exprime. Il y a énormément de gens qui viennent, par curiosité, mais aussi pour s'informer. Et c'est ça aussi, l'intérêt d'une rencontre, Vierzon ou ailleurs. C'est triste qu'on n'a pas pu continuer d'avoir une soixantaine de personnes, même s'il n'y avait que 10 ou 15 personnes qui s'exprimaient. Ça aurait voulu dire que les autres, ils venaient aussi pour s'informer, pour écouter et peut-être glaner des idées. Alors, c'est un peu compliqué, après, de mobiliser 60 personnes à chaque fois. Mais l'essentiel, c'est de continuer. Même si on est 7 ou 8, et que dans 7 ou 8, il y a 2 ou 3 personnes qu'on ne connaît pas, ou moins, qui ne prennent pas la parole, ils sont présents, ils écoutent. On peut discuter, effectivement, après, en petits groupes. On peut les informer un peu plus. Ce qui s'est produit à la dernière Nuit debout. Hasard, il est venu deux jeunes de la mission locale, peu au courant de ce qui se passe dans la vie politique et même la loi travail. Et ça a permis de discuter avec eux. Ils ont écouté après de pouvoir parler, d'avancer dans une information qu'on peut leur donner. Donc, il faudra trop se focaliser sur l'idée que tout le monde va prendre la parole. Ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Et on a eu aussi l'expérience du fait qu'on avait... Bon, on tournait à 20, 25 personnes. On s'est dit, pour élargir, il faut qu'on aille voir les lycéens. C'est parce qu'il y avait peu de jeunes, hein, quand même. Et donc, on est allé devant le lycée Brisson. Ensuite, on est allé devant Vaillant. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup de lycéens n'étaient pas du tout au courant même de ce qui se passait à Paris. On leur disait, la place de la République, ça vous dit quelque chose? Non. À la limite, Ah ouais, il y a eu du baston. C'était les seules références qu'ils avaient. Donc, comme quoi, les informations passent vraiment peu. Et au moins ça, on se dit que la prochaine fois, peut-être qu'ils entendront le mot « nuit debout » ou hop, ils tendront l'oreille. Enfin, on sème des petites graines comme ça... On se dit qu'on en a éveillé quelques-uns. Voilà.
Et entre autres, à Vaillant, c'est vrai que au bout d'une demi-heure, l'expérience allait un peu décevante. Parce que effectivement, peu de jeunes sont au courant. On leur parle de quelque chose on a l'impression qu'ils ne connaissent pas. Et puis après, en réfléchissant, on fait un peu le bilan. Moi, personnellement, j'ai fait le bilan. Ouais, j'ai rencontré quelques jeunes quand même, deux ou trois jeunes filles avec qui on a pu parler avant d'ailleurs de donner la sortie officielle du lycée, qui ont été intéressées par ce qu'on leur a dit et qu'ils ont pu rentrer dans la discussion. On a rencontré un jeune, peut-être 16-17 ans, très politisé, très informé, intéressant ce qu'il nous disait. Lui, il n'était pas négatif par rapport au mouvement. Il posait les bonnes questions. Donc, en une demi-heure, on a vu sortir beaucoup de jeunes. Mais s'il y en a 3 ou 4 qu'ils peuvent, eux, reprendre le relais de notre travail, c'est bien.
Alors peut-être que l'émission de ce soir peut être aussi l'occasion de rétablir une vérité, parce qu'il y avait eu une grande polémique au lancement de la Nuit debout vierzonaise. On vous a accusé de vouloir récupérer, de vouloir, disons, dissoudre la Nuit debout dans des partis politiques communistes, anticapitalistes, etc. Alors est-ce que c'était votre objectif ?
Êtes-vous des sous-marins de partis politiques ? Dites-nous.
Parce que c'est vrai que Marie-Hélène et moi, nous sommes toutes les deux dans des partis politiques différents. Mais je ne pense pas que ni Marie-Hélène ni moi n'ayons cette ambition. Il faut savoir qu'à la première réunion de préparation de cette Nuit debout, moi personnellement, déjà, j'ai fait savoir que je lançais cette Nuit debout, cette initiative, et qu'après, je lui donnais les clés. Plus, j'allais venir, j'avais d'autres engagements ailleurs déjà, donc je ne pouvais pas venir tout le temps, et qu'après je viendrais pour intervenir éventuellement, mais je ne m'occupais plus de l'organisation. Et ensuite, on a remarqué quand même à cette réunion, donc avant la première Nuit debout, qu'il y avait quand même pas mal de personnes non encartées et qui avaient envie, qui étaient intéressées pour participer. Donc non, je crois que c'est une petite polémique, juste histoire de faire monter de la mayonnaise, mais qui n'a pas vraiment de fondement.
Oui, c'est vrai que moi je milite au nouveau parti anticapitaliste, mais je veux dire, mon esprit ne se limite pas à le parti. Hein. Moi, j'ai une curiosité qui va dans plein de domaines et ce type de... Ça m'intéresse, quoi. Il y a une effervescence, il y a quelque chose qui se passe. Bon, je suis intéressée. Mais je ne vois pas pourquoi, du fait que je suis militante, je devrais m'interdire d'y aller, ou voire de suggérer, pourquoi pas. Je ne comprends pas cette polémique. Mais c'est pareil, hein, le rêve, ce serait que les jeunes prennent la suite et puis organisent comme ils l'entendent. Bon, on est là, on est des piliers, disons.
Oui, cette polémique, elle nous a peut-être desservis. Parce que, faut être clair, c'est quelque chose qui passe sur Internet depuis longtemps, sur Vierzon. Je ne sais pas trop le nom, hein, parce que j'écoute pas cette espèce de ragot qui est en permanence là. Ce qui est dommage, c'est que ce monsieur qui écrit ne soit pas venu à Nuit debout. Et d'abord, il aurait pu constater qu'il n'y avait pas de drapeau rouge, il n'y avait pas de drapeau du NPA, il n'y avait pas de drapeau noir. Et donc, c'est tout à fait anonyme. Il aurait pu s'expliquer, nous dire en direct ce qu'il a écrit sur son site. Et on aurait pu en débattre. Moi, j'ai un peu horreur des critiques qui sont faites dans le dos. Voilà. On ne sait pas d'où ça vient. Moi, je ne sais pas. Pour qui roule ce monsieur ? Il ne serait peut-être pas content si je dirais qu'aujourd'hui, il roule pour le Front National. C'est sûrement pas vrai, mais il serait vexé. Donc, nous allumer comme il l'a fait, je trouve ça assez déplacé.
Bon, je pense qu'il faut peut-être nommer les choses. C'est le site Vierzonitude, on lui est d'accord. C'est là où est venue l'information. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Voilà. Est-ce qu'on fait une pause musicale ou avez-vous d'autres choses à dire sur le sujet qu'on vient d'aborder ? Eh bien, pause musicale. On va lancer la chanson de Prévert, un peu d'amour, même si c'est les amours mortes. C'est la chanson de Prévert. Je vais lancer la musique. Quand ça démarre, on y va. Allons-y. Comme vous avez entendu, ça n'a pas démarré. Erreur de ma part. Donc, je relance la machine. Erreur de débutant. On y va.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère à cela, je n'ai rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Bien, nous retrouvons Radio Tintouin, la radio qui fait le lien, à l'émission « Cause toujours, tu m'intéresses ». Aujourd'hui, spécial Nuit debout. Et j'aurais une question donc pour Louise qui était à Paris. As-tu vu des casseurs? Es-tu une casseuse?
Eh bien, cher Dominique, je ne sais plus aujourd'hui ce qu'est un casseur et ce que n'est pas un casseur. Donc, je veux bien qu'on en discute après. Moi, j'ai pas vu de casseurs place de la République. J'ai déjà vu des personnes habillées tout en noir qui lancent des choses et disparaissent au bout de 10 secondes pendant que la police fonce sur nous. Sont-ce des casseurs? Je laisse la question ouverte.
Non, parce que nous sommes un petit média, mais les vrais médias, les bons, les grands, les ceux que vraiment qui font bien leur boulot. Moi, quand je les écoute, j'ai vraiment peur parce que il y a des casseurs partout. Donc, ça m'inquiète pour la jeunesse, pour les moins jeunes, etc. Est-ce qu'à Vierzon, il y a des casseurs? Dites-nous un petit peu.
Ah ben non, il y a la police qui passe. Hein, chaque fois.
Mais elle casse rien quand même, la police.
Qui nous fait un petit coucou. D'accord. Et ils nous demandent surtout jusqu'à quelle heure on va rester, parce que eux, leur boulot se prolonge tant qu'on est là.
J'ai même réussi à leur donner des tracts sur. On avait des tracts sur une monnaie locale complémentaire qui est en train de se mettre en place dans le Cher. Donc j'ai réussi à leur donner ça. Ils l'ont bien accueilli. On en a discuté. Ça se passe très bien.
Bon, alors, il n'y a pas de casseurs à Vierzon. À Paris, a priori, il y en a, et dans d'autres villes. Louise, toi qui étais là-haut, qu'est-ce que c'est? Moi qui n'étais pas à Paris, j'entends qu'il y a des casseurs partout, on nous le répète tout le temps. Donc je te pose la question, toi qui étais, les médias nous racontent qu'il y en a, moi je les écoute, voilà, toi qui étais, c'est quoi? Il y a des casseurs, pas de casseurs, on nous ment, on nous raconte la vérité, tu mens, tu nous dis la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous un petit peu.
Est-ce que je dis la vérité ou pas? Ce sera...
On va te faire confiance quand même.
Ah oui, bah merci, ce sera à vous d'en juger. Ce qui se passe, alors c'est pas forcément une question qui est liée aux Nuits debout. Mais ce qui se passe, en tout cas, sur la Nuit debout, c'est que la Nuit debout, c'est une convergence des luttes. Et donc, c'est pour ça que des personnes issues de partis politiques, de syndicats, etc., peu importe, vont se mettre ensemble. La lutte peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire de façon non violente. Elle peut aussi se faire de façon violente. Et il y a, pas forcément sur la Nuit debout, d'ailleurs, mais il y a dans certains mouvements des personnes qui choisissent de le faire de façon violente pour beaucoup de raisons. On pourrait citer comme raison l'escalade des violences avec la police lors des manifestations. Et ça, je pense qu'il y a quand même une responsabilité qui est au mieux partagée, au pire provoquée par les forces de l'ordre. Donc ma réponse à qui sont les casseurs, je dirais que c'est des personnes comme vous et moi qui ont décidé à un moment d'aller dans la rue, d'aller sur une place, de mener une lutte et qui choisissent simplement un moyen qui est différent.
Est-ce que tu pourrais nous parler de la répression politique, policière par contre, qui a l'air assez féroce En tout cas, dans certaines manifestations, notamment à Rennes, les manifestants n'avaient jamais vu une telle tension provoquée par la police. Est-ce que tu as ressenti ça aussi à Paris, y compris dans un rassemblement très pacifique comme la Nuit Debout? Est-ce qu'il y avait une tension policière assez forte?
Alors d'abord sur la Nuit Debout, moi je me suis toujours sentie en sécurité à Nuit Debout parce que je fais le choix aussi de ne pas partir trop tard, parce qu'à partir de 23h, les commissions commencent à ranger, à minuit l'Assemblée Générale range, et il y a toujours, plus ou moins selon les jours, mais il y a quand même beaucoup de police autour, et la gendarmerie qui habituellement n'est pas à Paris, mais il y a des camions, il y a parfois, selon les événements de la veille, des fouilles de sacs aussi qui sont faites. Néanmoins, sur la place de la République même, moi je n'ai jamais vu de violence ou très peu, très rapide. Il y a, comme je l'ai dit, une commission qui est chargée de prévenir ça. Moi j'ai vu très peu de choses. Après, il y a d'autres moments, place de la République quand même, et les manifestations, effectivement, comme à Rennes ou à Paris ou ailleurs, il y a une violence extrême. Et c'est un point où des personnes, pour aller en manifestation, maintenant vont en manifestation avec des lunettes de plongée, avec du sérum physiologique, avec du citron, par peur de se faire bloquer, et des citoyens complètement ordinaires. C'est pour ça que je parlais des casseurs qui ne sont pas des casseurs, parce que la différence entre un citoyen qui va en manifestation et qui se fait bloquer dans une nasse pendant des heures et le casseur, elle est de plus en plus fine.
Excuse-moi, parce qu'il y a un truc qui m'a fait réagir. Quand tu parles des provocations des forces de l'ordre, moi j'ai plutôt l'impression que les forces de l'ordre répondent à des ordres, obéissent à des ordres qui leur sont donnés. À moins qu'il y ait peut-être quelques zozos qui s'amusent à provoquer et que ça fait marrer d'aller taper du manifestant. Maintenant, je considère que les policiers et les gendarmes obéissent aux ordres qui leur sont donnés, et qui leur donne des ordres, c'est ça émane du gouvernement, de l'État.
Ouais. Ouais. Bah, c'est ça qui est tout le problème, qui est un vrai problème en France pour moi, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la police et l'État. Donc déjà, ça pose, par rapport à la démocratie, c'est quand même vraiment problématique. Après, voilà, il y a toujours des provocations du côté de manifestants. Je pense que ça peut arriver. Mais le problème, c'est la stratégie des forces de l'ordre qui, pour moi, n'est pas du côté de la désescalade, mais au contraire du côté de l'escalade de la violence. Après, pour ce qui est de l'intention de la police, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a sans doute des ordres qui sont donnés. Ça, on le sait plus ou moins, mais voilà, je ne sais pas dans quelle mesure. Mais il y a aussi une réalité qui est que depuis les attentats de Charlie Hebdo, le plan Vigitip Pirate est au maximum. Donc on se retrouve avec des forces de l'ordre, des CRS en manifestation, qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas prêts et qui sont épuisés. Et donc je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de violence, de matraquage sur des étudiants, comme on a pu voir, qui viennent de ce problème aussi.
Oui, le problème de la violence, c'est pas très facile à résoudre, à parler comme ça. D'abord parce qu'on n'est pas dans une société qui n'est pas violente. La violence, elle est aussi pour tous ces gens, ces jeunes que l'on laisse sur le bord de la route, en marge de cette société. Donc pour eux, c'est peut-être une façon de s'exprimer, de casser une vitrine ou de taper sur les flics, d'une chose. On sait aussi par expérience que c'est tellement facile d'infiltrer des gens dans les manifestations pour provoquer. En général, ce sont des gens qui sont dans la police. C'est connu. Les mouvements politiques sont tous infiltrés. Pourquoi que les manifestations n'y seraient pas? Tu parlais que quand on est dans une nasse pendant quelques heures encerclé de CRS, ça peut donner de la violence. Moi, j'ai le témoignage d'un jeune, 18-20 ans, il est étudiant. Il s'est retrouvé devant un McDo pendant 5 heures, bloqué par des CRS. Ils étaient assez nombreux. Bien sûr qu'au bout de 5 heures, il y en a dans ces jeunes, ils ont envie d'en découdre. Ils n'acceptent plus. Et là, la violence, elle part. Donc, faut pas non plus parler que de cette violence. Elle sert le pouvoir, cette violence. On nous parle que de violence à la télévision. Marie-Hélène, tu disais que les lycéens à Vaillant, ils étaient au courant de la violence parce qu'ils entendent parler de cette violence. Mais c'est pas là le but. La violence. Quand on regarde l'histoire des luttes sociales, sans remonter à la nuit des temps, mais depuis 1945, elles ont toujours été violentes. 1947, la grève des mineurs, c'est violent. Il y a des morts. Curiosité, c'était quand même un pouvoir socialiste. Et puis, on peut remonter comme ça l'histoire. Charonne, des morts bloqués dans une bouche de métro. C'est aussi des manifestations. Ça fait partie du jeu. Il faudrait l'éviter, mais comment l'éviter? Par contre, là, on sent bien que dans ces manifestations de cette année, on joue beaucoup pour casser le mouvement sur la violence. Jusqu'à maintenant, les blessés, assez sérieusement, ils sont du côté des manifestants. Très peu de l'autre côté. C'est vrai qu'ils sont bien équipés. Hein.
Il y a aussi cette violence qui est spectaculaire hein, entre les CRS et les manifestants. Ça cache une autre violence qui dure depuis beaucoup plus longtemps, qui est plus insidieuse et qui est très imprégnée dans la société. C'est tout ce qui est la violence sociale. La violence sociale envers une grande partie des personnes qui fait des chômeurs, des précaires, une difficulté à s'insérer dans une vie sociale et dans le travail. Et puis il y a une violence aussi qui va empirer aussi, qui concerne les enjeux climatiques, qui va engendrer encore plus de violence aussi, ça.
Alors justement, cette loi, normalement, c'est ce que nous dit le gouvernement, est censée redonner de l'emploi aux gens, les remettre au travail. Enfin, c'est une loi vraiment bien qui va lutter, qui va aider les gens, les remettre socialement, c'est un plus, c'est ce qu'ils nous disent.
Je sais pas si enlever des jours de congé en cas de décès d'un proche va vraiment créer du travail.
Bon, c'est un détail, ça, voyons.
Un détail.
Et en allongeant les semaines de travail, pareil. Ça va en donner plus du travail.
Je suis neutre, je reste neutre. Et sur ce, nous allons passer un petit peu de musique et nous allons rentrer ensuite peut-être dans le débat de El Khomri, je ne sais pas, on va voir. Pierre va nous dire ou Claude. Donc on va passer un morceau en essayant pas de me planter cette fois-ci. Ça s'appelle The Handsome Family, c'était le générique d'une série américaine qui m'avait plu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on lance.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my walking with the wind to watch the cactus bloom.
Bien, retour sur Radio Tintouin, la radio qui fait coin-coin. Nous sommes dans l'émission « Cause toujours, tu m'intéresses ». Eh bien, causons. Pierre, à toi la parole.
Je vais la passer à Claude, qui a une question à poser.
Non, c'est tout simple. Oui, moi, ça m'intéresserait de demander à Louise, qui est toute jeune, comment elle voit la suite de Nuit Debout, sachant bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui va, il faut espérer, sortir de ce mouvement, mais ça ne va pas rester éternellement à occuper la place de la République et puis les eaux de ville de France, y compris la société française à Vierzon. Qu'est-ce que tu attends de, comment tu vois une suite qui puisse s'organiser tout en restant dans l'esprit Nuit Debout?
Déjà, je voudrais commencer par dire que moi, j'ai pas d'attente par rapport à Nuit Debout, parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est le fait que Nuit Debout existe. Existe à Paris, existe à Vierzon, existe ailleurs. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est de montrer et que chacun puisse faire l'expérience du fait que c'est possible, c'est encore possible de se retrouver collectivement et d'échanger collectivement et de faire des choses ensemble. Et pour moi, ça, c'est acquis. Donc finalement, quelque part, peu importe si le mouvement s'arrête demain ou après-demain, tous les liens qui ont été créés, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été développé, ça va rester et ça va prendre d'autres formes. Donc, c'est pas forcément, voilà, pour moi, la question essentielle. Déjà, ça existe. Après, pour répondre, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis un petit peu pessimiste vis-à-vis de la politique telle qu'elle est menée en France et de l'exercice de la démocratie. Je pense qu'il y a quand même une pente très dangereuse qui est passée cette année avec l'état d'urgence, avec la répression policière, avec la loi travail, dont on ne sait toujours pas si elle va passer ou pas. Donc c'est très difficile de se prononcer. Je pense que la Nuit Debout peut produire beaucoup de choses. Et pourquoi pas rester sur les places. Et s'il y a des groupes politiques qui en sortent, s'il y a des organisations qui en sortent, il y a des associations qui en sortent et qui font des choses très bien, mais pourquoi pas garder cet espace ouvert d'échange et de dialogue, et que ce soit naturel et que ce soit systématique, que dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a un endroit où les personnes puissent se retrouver pour échanger.
Et malgré tout, quand on est peut-être quelqu'un qui attend plus de concret, on a l'impression d'une certaine impuissance de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait rester 15 ans effectivement sur des places à échanger, mais que concrètement, pendant ce temps-là, le programme néolibéral poursuit sa course. On sait que derrière la loi El Khomri, il y a tout un tas d'autres projets qui sont en préparation, notamment en 2017, avec notamment les programmes des Républicains qui sont hyper libéraux, qui se revendiquent tous de Thatcher. On voit qu'il y a une espèce de lame de fond aujourd'hui qui nous entraîne, contre laquelle on a beaucoup de mal à résister. Et les mouvements Nuit Debout, on a l'impression qu'ils sont relativement impuissants face à cette vague-là qui et qu'on pourrait effectivement, comme tu le disais, rester sur des places, mais que pendant ce temps-là, là, les choses continueraient leur pente, quoi. Et je dis ça peut-être pour ouvrir sur une autre question, enfin c'est pour aborder quand même les critiques, parce que bon, on est tous des sympathisants de Nuit Debout finalement, là autour de la table, on y va tous régulièrement à Vierzon et on discute ensemble, mais est-ce que, malgré tout, il ne faut pas qu'on fasse notre autocritique? C'est-à-dire qu'on a l'impression, notamment, on parlait du traitement médiatique tout à l'heure, d'un traitement médiatique qui est très bienveillant à l'égard de Nuit Debout, qui a fait les unes de tous les médias, qui a été partout célébré comme une nouvelle forme de militantisme, originale, intéressante. François Ruffin, lui-même, qui est l'initiateur de Nuit Debout, disait qu'il était quand même assez surpris par cette espèce le contraste qu'il y a entre le traitement très bienveillant des médias envers Nuit Debout et le traitement très hargneux qu'ils ont contre la CGT, par exemple contre Martinez, qui a été assimilé par exemple par une journaliste de France 2 à un radical, enfin à une personne en voie de radicalisation qu'il faudrait arrêter l'action, etc. Et on a l'impression, peut-être Enfin, comment vous expliquez cette différence de traitement entre les deux ? Est-ce que finalement, s'il y a une telle bienveillance vis-à-vis de Nuit Debout, est-ce que c'est pas parce que déjà sociologiquement, c'est des personnes qui sont peut-être plus diplômées, qui se réunissent sur les places, qui sont peut-être plus proches des journalistes de ce fait-là ? Enfin, c'est une hypothèse que François Ruffin lui-même donnait dans une interview qu'il a faite récemment à Libération. Et est-ce que aussi le manque de conflictualité, peut-être, de Nuit Debout par rapport à la CGT, par exemple, le fait que se réunir sur une place n'a pas du tout la même portée que de bloquer des gares, que de bloquer des raffineries, que d'arrêter vraiment, que de faire des grèves générales. Est-ce que cela, ça n'explique pas aussi cette relative indulgence qu'on voit à l'égard de ce mouvement de Nuit Debout ?
Bah, je pense que la première chose, et c'est toi qui l'as dit, c'est que... Est-ce que Nuit Debout a le pouvoir de bloquer des raffineries, de bloquer tout ce que bloque la CGT ? Donc, il me semble naturel aussi que le traitement ne soit pas le même, parce que les faits d'un mouvement de grève CGT et les faits d'une Nuit Debout ne sont pas forcément comparables. Et par pas comparable, j'entends, et là je reviens à l'idée de convergence des luttes, que c'est d'autres façons. Il y a des milliers de façons de participer, il y a des milliers de façons de s'engager, et simplement ce que fait la CGT, ce que fait Nuit Debout, c'est différent. Et tu peux repréciser ta question, c'était un petit peu.
Moi, j'ai envie de dire quand même qu'il n'y a pas une cloison étanche entre ces différents mouvements. Hein. Mmh.
Mais on entend un discours très anti-structure dans les Nuits Debout, très anti. Anti-parti, anti-syndicat, etc. Et on a l'impression d'inventer un peu l'eau chaude. On dit, tiens, on est en train d'inventer des nouvelles formes d'organisation. Avec Nuit Debout va émerger un Podemos à la française, comme on l'a rabâché dans les médias, etc. En gros, la classe ouvrière, les anciennes formes de militantisme, tout ça, c'est mort. Et on va, nous, diplômer, inventer d'autres formes de mobilisation. Alors qu'en fait, on voit quand même aujourd'hui que s'il y a un rapport de force qui s'instaure contre la loi travail, c'est pas en se réunissant sur des places, mais c'est quand il y a des grèves, des blocages, des raffineries qui sont qui ne produisent plus, des blocages de routes, de transport.
Je pense que tu as raison, mais il y a différents problèmes, parce que la bienveillance dont Nuit Debout a bénéficié, je pense que c'était surtout au début un étonnement par rapport à ce mouvement qui paraissait utopique et qui a pris corps petit à petit. Et ensuite, je pense que la bienveillance s'est petit à petit effacée. Il y a eu l'épisode Finkielkraut qui a été monté en épingle, la violence dont Claude nous parlait, on a commencé à en parler autour de Nuit Debout, quand on s'est aperçu justement que Nuit Debout ne se limitait peut-être pas justement à rester assis sur la place, mais où il y avait des mouvements convergence des luttes. Je pense il y a des gens qui ont pris la parole, qui étaient dans de vrais mouvements. Alors, c'est vrai que maintenant, on ne parle. Enfin, moi, j'ai l'impression que Nuit Debout est un peu effacée, quand même, des médias.
Et à ce propos, je voudrais quand même rappeler, il me semble que c'est la directrice adjointe du Nouvel Observateur qui a été licenciée parce qu'elle était trop proche de Nuit Debout. Et effectivement, aujourd'hui, alors là, cette semaine, on a parlé de la pluie, la semaine d'avant, c'était la CGT, maintenant, ça va être l'Euro de foot. Il y a aussi quand même vraiment quelque chose de caché, enfin, qui est occulté sur les activités de Nuit Debout. Et ce que je peux dire, moi, c'est que quand je suis à Paris, en termes d'actions concrètes, il se passe des choses tous les jours. Tous les jours, il y a des actions, tous les jours, il y a des... Voilà, il y a des points aussi, comme tu dis, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est pas, moi, je ne suis pas contre les syndicats, je ne suis pas forcément contre les partis politiques, il ne s'agit pas de créer une rupture, il s'agit simplement, c'est autre chose, pour moi, c'est simplement différent.
La question que je voulais amener aussi, c'est est-ce qu'on ne s'extasie pas un petit peu trop, malgré tout, sur ce mouvement qui concerne assez peu de personnes ? Quand on se compte réellement, on n'est quand même pas si nombreux à participer à Nuit Debout. Est-ce qu'on ne s'extasie pas trop devant ce phénomène qui resterait minoritaire, très, très peu populaire finalement ? Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'aveuglement quand même sur la puissance des Nuit Debout ?
Moi, il y a juste une chose sur le traitement médiatique qui a été fait à Nuit Debout. Je pense que c'est aussi qu'il y a une certaine bienveillance envers... envers les étudiants et lycéens qui étaient qui ont fait partie des premières Nuits Debout. Et bon, c'est voilà, ils sont gentils, les étudiants et lycéens, c'est des jeunes, ils savent pas, bon, c'est ils sont gentils, donc les médias ont été gentils avec eux. Puis en fait, on s'est rendu compte que ils faisaient des trucs, hein. Ils faisaient des actions, ils faisaient des manifs devant des banques ou devant des permanences du PS ou ce genre de choses qui a fait prendre conscience à certains médias que il y avait quand même un danger. Premièrement, ensuite sur les partis politiques, là où j'entends que ils font pas partie politique, ils veulent pas prendre part à la politique, ils font de la politique. Qu'ils le veuillent ou non, ils font de la politique. Donc après, qu'ils ne veuillent pas entrer dans des partis politiques ou des choses comme ça, ça se comprend, mais ils font de la politique et ils font avancer les partis politiques qui voient des idées et qui éventuellement peuvent soutenir les actions. Et enfin, sur ce que tu demandais, Pierre, sur la minorité, le fait que ce mouvement soit une minorité par rapport à la population dans son ensemble, je pense pas que ce genre de mouvement, enfin après je me trompe peut-être, mais je pense pas que ce genre de mouvement finalement rassemble énormément de personnes dans les fêtes. Après, ça veut pas dire que les gens ne soutiennent pas. Ça ne veut pas dire que finalement les gens n'y adhèrent pas. Mais c'est vrai que, de toute façon, l'impression que j'ai de ce que je vois, c'est que on n'aura jamais finalement une majorité de la population investie dans les luttes locales et militantes. Voilà. Après, notre travail de militant, eh ben, c'est d'informer, de chercher à justement à toujours informer, faire des actions.
Par contre, ce qui est indéniable, tu as raison, c'est la violence des médias vis-à-vis de ce qui se passe de la CGT. Hein. Mais parce que je pense que les médias représentent quand même le système, et là, ils se sentent un petit peu...
Ah oui, des formes de capitalisme.
Voilà. Oui. Donc, c'est sûr qu'ils ont plus à craindre. Hein, il y a des intérêts directs, financiers, en jeu, qui ne sont pas dans Nuit Debout, c'est évident.
Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur la question, quand tu parlais de l'impuissance... et qu'est-ce que ça apporte d'aller sur des places? Est-ce que des actions comme la CGT sont plus ou moins efficaces? Et moi, j'ai assisté à Nuit Debout à un débat très intéressant sur les formes de grève et sur comment faire la grève et comment mener le mouvement social. Partant du constat qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas en mesure de faire grève. Il y a des personnes qui ont des emplois précaires ou qui n'ont pas d'emploi. Comment font ces personnes pour faire grève? Il y a aussi des personnes qui n'ont plus envie d'aller en manifestation parce qu'elles ont peur de se faire casser la gueule. Et donc c'est en ça que je dis qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre des actions CGT, des actions Nuit Debout. L'opposition est plutôt créée dans les discours, notamment dans les médias qui vont séparer les pacifistes des autres. Encore une fois, on revient à la même question que pour les casseurs. Mais pour moi, le plus important, c'est que chacun puisse, à son échelle, faire ce qui est possible pour lui pour changer les choses. C'est ça qui compte.
Et même sociologiquement, hein, au départ, on a dit oui, Nuit Debout, c'est les bobos, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins net que ça, qu'il y avait des mélanges de populations, de tranches d'âge et de tout niveau, quoi.
Et juste pour préciser, il y a en Île-de-France, il y a aussi les banlieues debout.
Oui.
Qui sont des mouvements qui sont de plus en plus importants dans énormément de villes à l'extérieur de Paris, partant du constat que oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir place de la République, et ben on va aller le faire localement chez eux. Et c'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est pas la place de la République. Ce qui compte, c'est l'outil Nuit Debout.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens se rendent compte qu'il y a vraiment un gros problème sociétal. Que ce soit au niveau de la démocratie, que ce soit au niveau de la répartition des richesses, que ce soit au niveau de tous les problèmes écologiques, les systèmes de mode de vie, l'organisation de la société. Et bon, alors après, on verra sur quoi ça débouche, mais à mon avis, ça ne peut que faire son chemin petit à petit.
Oui, pour revenir à ce que Pierre y disait, je pense surtout une chose, c'est que le pouvoir, tout au moins au départ, ne craint pas Nuit Debout, craint les syndicats, et craint l'action dans la rue, et craint l'action dans les usines, parce que le mouvement social, il est dans les syndicats, c'est une force, on le voit bien. Après, on peut être critique par rapport à cette organisation de cette force. Ces grèves à répétition, mais que tous les 8 jours, c'est peut-être moins performant qu'une véritable grève qui continue. Enfin, ça, c'est un autre débat. Je pense qu'au début, au départ, tout au moins, le pouvoir ne redoute pas trop Nuit Debout. C'est une organisation, c'est des gens qui se réunissent, c'est bien. Ils s'interrogent sur la société, ils s'interrogent sur la démocratie, ils envisagent d'aborder les problèmes d'une autre façon, mais on parle. C'est pas dangereux pour le pouvoir. Le pouvoir, ce qui est dangereux, c'est ce qui va bloquer l'économie. On s'en rend bien compte. D'où l'attaque plus dure par rapport à vis-à-vis de Martinez que de Nuit Debout. Mais j'ai posé la question à Louise, qu'est-ce qu'elle attend, enfin, pas elle personnellement, mais qu'est-ce qu'on attend en fait de ce mouvement Nuit Debout? Il faut bien qu'il en sorte quelque chose. Inévitablement, il y aura une fin. Effectivement, il peut y avoir une personnalité ou plusieurs personnalités, mais une personnalité qui sorte du lot, comme en Grèce, comme en Espagne, ça devienne un nouveau parti politique. Pour moi, c'est la catastrophe.
Oui,
c'est là, on a vu que c'est où ça les conduit et où ça conduirait exactement le mouvement Nuit Debout. Par contre, effectivement, il serait peut-être bon de réfléchir, de fédérer ces actions qui sont faites en travers la France.
Il faut continue Claude, simplement ne tape pas la table, elle t'a rien fait.
Moi j'ai l'habitude de taper, j'ai un cancer, que tu veux.
On t'écoute.
Non, ce que je veux dire, et peut-être qu'à un moment, ça serait intelligent de fédérer. Fédérer ces mouvements qui sont en travers la France, comité autonome, parce qu'on garde chacun notre indépendance, qu'on tienne compte des luttes que l'on peut mener. Sans renvoyer les informations aux autres, c'est-à-dire fédérer ce mouvement pour pas qu'il meure. Parce que moi, je suis convaincu qu'à un moment, il va mourir. Alors, si c'est pour rentrer chacun chez soi, chacun dans son petit lieu, étudiant ou pas étudiant, chômeur ou pas chômeur, ça ne sera qu'un souvenir. D'accord ? Et ce qui serait peut-être de pouvoir, partant. Paris, c'est important, le mouvement est plus important. Il y a la banlieue où ça existe aussi. Il y a des villes de province où ça fonctionne. Fédérer un peu ces luttes, moi, je suis partisan du fédéralisme.
Il y a eu un Global Debout, hein ?
Oui, j'y étais.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, c'était un week-end où étaient invités énormément de militants et d'activistes de différents pays. C'était plutôt à l'échelle de l'Europe, mais il y en avait beaucoup d'autres. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'idée, c'était que, par exemple, la loi travail ne vient pas forcément du cerveau génial de nos dirigeants, mais vient aussi et principalement de l'Union européenne. La loi travail est en train de... Enfin, voilà, il y a ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en Allemagne au niveau du travail, et puis il y a ce qui arrive en Belgique, où la loi est sortie et où les manifestations sont réprimées tout aussi violemment que par chez nous. Et donc c'est vrai que c'est une chose de critiquer ce qui se passe à l'intérieur de la France, mais comment changer ce qui se passe en France sans toucher à ce qui se passe dans l'Union européenne, puisque tout est lié. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Je sais que... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'intervenants avec des traductions pendant tout le week-end, et avec l'idée de fédérer des actions et de faire des actions de manifestation ou d'occupation de place le même jour sur différents pays d'Europe. Et puis c'était très intéressant aussi au niveau du partage des pratiques. Par exemple, il y avait un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui était de Bruxelles, qui était syndicaliste, et qui disait que là-bas, ils ont créé un dispositif où des chômeurs peuvent faire grève. Alors comment est-ce que des chômeurs font grève? Il dit, eh ben, on fait le contraire, on fait comme si on travaillait. Donc par exemple, on est allé au ministère de l'économie, on est rentré dans le ministère de l'économie, puis on s'est fait à faire ce que font les gens qui travaillent, on a déplacé des objets, on a ouvert des portes, on a ouvert des fenêtres. Enfin, voilà des actions comme ça auxquelles, voilà, qui sont tout à fait innovantes. Et donc ça, c'était très intéressant à ce niveau.
Bien, nous allons faire une pause musicale, si vous êtes d'accord, à moins que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à la dernière partie, finalement. Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Vous avez une chose à rajouter avant de passer à... Peut-être que Louise, est-ce que tu es avec nous jusqu'à la fin de l'émission ou tu dois t'en aller?
Moi, je vais partir, chers auditeurs. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité sur Radio Tintouin et j'espère revenir prochainement.
Eh bien, Louise, on t'attend quand tu veux pour participer aux émissions de Cause Toujours Tu M'intéresses ou toi-même faire une émission sur Radio Tintouin. On t'attend, on te dit merci, on va lancer un morceau et on passera certainement la dernière partie pour conclure sur, cette fois-ci, sur Nuit Debout Vierzon, puisque Paris... nous abandonne. Nous avons donc maintenant un groupe qui s'appelle Mana, un groupe mexicain que j'aime pas mal. Et la chanson s'intitule « Vivir sin aire », vivre sans air. Marie-Hélène se marre. On saura après pourquoi, nous le dira. En attendant, on va lancer l'émission. La chanson. C'était Mana Vivir Sinaire. Nous allons nous retrouver en notre souffle. Nous sommes sur Radio Tintouin, la radio qui fait le lien. Cause toujours, tu m'intéresses. Causons, qui veut prendre la parole? Claude, Pierre, avec nos sympathiques invités, ES.
Alors moi, je vais passer la parole.
Je sais pas trop quoi dire.
Excuse-moi, Pierre, j'avais pas allumé le micro, donc tu peux reprendre la parole.
D'accord, bon. Moi, j'ai peut-être une question à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Nuit Debout à Vierzon? Parce qu'on va reparler plutôt localement. Il y a une nouvelle, un nouveau rassemblement demain soir. Est-ce que vous pensez faire durer ça toutes les semaines, jusqu'à quand? Quelles sont les perspectives Nuit Deboutiste?
Je dirais aussi longtemps qu'il y aura du monde. Voilà. Aussi longtemps que des personnes seront intéressées pour se retrouver dans la rue une fois par semaine. Ça me paraît déjà un beau programme. Après, c'est sûr que parce que ce qu'on aimerait faire, c'est un peu sur le modèle des Nuits Debout de Paris, monter des commission, alors c'est un grand mot, mais juste des
groupes de travail autour de différents thèmes. Alors il y a par exemple sur la loi travail où pas mal de monde, enfin on est globalement informé, mais à minima, donc il pourrait très bien y avoir une commission de quelques personnes qui s'informent sur cette loi, qui vraiment s'informent en profondeur, lisent le texte, enfin, s'informent sur le texte et retransmettent ça aux autres pour amener un débat. Il peut y avoir aussi d'autres commissions sur des aspects écologiques ou sur la ville elle-même, sur la gestion de la ville, sur des aspects dans la ville et des choses qu'on aimerait proposer pour la ville aussi, pour Vierzon ou le pays de Vierzon.
Est-ce qu'il faudrait créer de ce fait une sorte de structure un peu plus pérenne, ou est-ce que ça resterait sous la forme Nuit Debout? Est-ce qu'il faudrait faire un collectif peut-être qui se réunirait de manière, je sais pas, plus à plus long terme? Parce que j'imagine que Nuit Debout va peut-être pas durer 15 ans, que ça risque peut-être de faire comme ce qu'a pu faire Occupy Wall Street ou le mouvement des indignés qui a eu lieu en France aux alentours de 2011, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les places se vident quand même. Et est-ce que par la suite, il faudrait essayer de créer un lieu, une structure, une association, un collectif, je ne sais pas, pour poursuivre cet engagement, d'autant plus si tu parles d'aspects locaux, comment changer la ville de Vierzon, ce genre de choses. Il faudrait, j'imagine, une assise un peu plus pérenne, peut-être.
Alors, faire une association, mon avis à moi, c'est que à partir du moment où on commence à institutionnaliser un mouvement, on le fait mourir. Enfin, il est plus vraiment vivant parce qu'il commence à avoir des formes institutionnelles, quoi. Voilà. Donc, faire une association, par exemple, enfin, moi, la façon dont je le vois, ce serait pas forcément une bonne chose.
C'est un collectif informel.
C'est déjà un collectif informel de toute façon. C'est déjà un collectif.
Pierre, il faut parler devant le micro, sinon on t'entend pas. Excuse-moi.
C'est déjà un collectif informel. Après, le mouvement deviendra ce qu'on en fera. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense Marie-Hélène, mais moi, je ne me vois pas commencer à imaginer, à décider un peu pour les gens du collectif de Nuit Debout de ce qu'ils devraient en faire. Je pense que ça serait dans des débats en groupe, en plénière, on va dire, d'imaginer son devenir, quoi.
C'est un peu le... Oui, on en est là. L'intérêt, ce serait que les gens prennent en main et se disent, tiens, on va faire ceci, on va faire cela. Sinon, c'est vrai qu'on se retrouve un peu sur un collectif qui existe déjà plus ou moins, parce que ça recouvre un peu quand même le cercle du Café Repère, hein, il faut le dire. Donc, on va voir ceci. Mais c'est vrai que s'il y a deux, trois jeunes qui passent à chaque fois, deux, trois nouvelles personnes, qu'auront-ils envie d'en faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aura un avenir. Comme disait Louise, on a rien à définir. Les idées sont là. Je ne sais pas. Moi, je dis advienne que pourra. Mais de toute façon, je pense que tous ces gens qui ont des choses à dire sur que ce soit leurs conditions de travail, sur le désenchantement qu'a pu apporter cette pseudo-gauche au pouvoir, tout ce qui paraît, les inégalités qui s'accroissent, tout l'environnement politico-social, va de plus en plus concerner des gens. Les consciences s'en trouvent, on va voir. Moi, j'ai rien de. Je peux pas dire, j'attends pas le grand soir, j'attends pas une organisation supplémentaire. Simplement que des gens prennent conscience de ce qui se passe et puis aient envie de faire des choses.
Voilà, chacun de se saisir finalement de venir dans les rassemblements et de participer.
Ensemble, ensuite, pouvoir voir ce qui se recoupe, comment on voit l'avenir, comment le monde de demain pourra fonctionner sur d'autres bases. Après, chacun a eux de définir.
Je crois que ce que ça pourrait amener de mieux, d'après moi, c'est que c'est un retour d'une sorte de conscience de classe, en fait. Une conscience de classe, une conscience d'un collectif. Faire grandir ça, j'ai l'impression que cet aspect, ce concept a un peu été édulcoré et un peu parti. Donc si on pouvait arriver à faire remonter cette idée de conscience de classe par les Nuits debout, ce serait déjà bien.
Oui, quand tu parles de lutte de classe, c'est malheureusement c'est quelque chose qui a été oublié depuis de nombreuses années par les partis politiques, entre autres, sachant qu'on est toujours dans une lutte de classe. On est dans un rapport de force entre exploité et exploiteur. Et c'est toujours la même chose. Donc, effectivement, si les gens en prendraient un peu plus conscience, ça serait bien. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est que aujourd'hui, on a quand même l'impression, on a même plus que l'impression, c'est que cette politique telle qu'elle fonctionne en Europe, mais enfin, en prenant l'exemple de la France, ça ne va plus. On est au bout d'un système. Il y a quelque chose qui fonctionne plus, les gens n'y croient plus. On ne sort pas de ces consultations régulières, électorales, où on revoit les mêmes, où on revoit de droite ou de gauche les mêmes personnages. Ce sont des gens qui sont devenus des professionnels, c'est leur métier. Ils ont pris les structures de ce pays. Et on le voit à chaque élection. On va le voir en 2017. On nous ressort un Juppé, on nous ressort un Sarkozy. On tourne en rond. Et ça, je pense que ça ne fonctionne plus. Alors, comment on pourrait arriver à imaginer autre chose? Chacun, on a notre petite idée. Moi, j'ai mon idée, mais je n'ai pas du tout envie de la vendre. Simplement, que les gens s'interrogent comment reconstruire la démocratie et comment l'inscrire dans la lutte, parce que effectivement, comme tu disais, Pierre, on changera rien sans lutte, et des luttes ça s'organise, et des luttes il faut être précis dans une lutte. C'est pas chacun qui va tirer d'un côté et tirer de l'autre, en tout en évitant que des petits malins en profitent pour prendre ce mot que je déteste, ce mot pouvoir. Parce que dans tout mouvement, des gens qui ont envie de devenir chef, il y en a partout. Donc voilà comment justement les gens peuvent s'approprier, de lutter, mais de lutter peut-être sans des élus, avec des délégués, avec des prises de décision prises en commun, avec, y compris au niveau de l'organisation de la municipalité, du quartier, de l'usine. Je pense que c'est là qu'elle est la démocratie.
Moi, je trouve qu'une des grandes vertus du mouvement Nuit Debout, globalement, c'est qu'on est passé de l'idée « un autre monde est possible » à « un autre monde est nécessaire ». Et nécessaire rapidement, parce que l'urgence écologique est là, quoi.
Un petit mot, Céline, on conclut l'émission ?
Écoutez, il est 20h29.
Effectivement,
soit on conclut, soit on continue 10 minutes. Avez-vous encore des choses à dire ?
Simplement, on va rappeler quand même que les Nuits Debout se passent tous les jeudis à 20h sur l'esplanade de la Société française, devant le cinéma.
Oui.
Lumière, c'est ça ?
On s'est décalé un petit peu plus vers le centre de la place, parce qu'il y a des bancs et que finalement, les Nuits Debout assises, c'est pas mal non plus.
Donc voilà, tous ceux qui veulent débattre sont les bienvenus dans ces assemblées pour poser les problèmes et inventer une autre manière de fonctionner ensemble pour redonner du sens à la politique finalement.
Donc merci à nos invités, à Louise qui est déjà partie, à Marie-Hélène, à Céline, aux animateurs Claude, Pierre et moi-même. Savons-nous quel sera le sujet du mois prochain, en juillet ? D'ailleurs, y aura-t-il une émission au mois de juillet ? Peut-être bien, peut-être que non. On vous tient au courant. Je crois que cette fois-ci, pour un début, on a peu tardé sur Radio Tintouin pour remettre les podcasts, parce que il faut déjà apprendre sur le plan technique. On apprend par nous-mêmes. C'est le principe de Radio Tintouin, avec peu de moyens. Donc maintenant, on sait un petit peu comment faire les podcasts. Donc on a enregistré l'émission. On va essayer de mettre le podcast sur le blog. Je ne promets pas qu'il sera là ni demain, mais on va essayer de le mettre très rapidement. Et donc, on vous tiendra informé sur la prochaine émission. Et on aura des infos aussi sur Nuit Debout Vierzon. On rappellera le lieu, les horaires qui ont été répétés à l'antenne. Donc, merci à tout le monde. On a accueilli Christelle du Berry Républicain, qui va sûrement nous faire une belle photo. On la remercie d'avance. On la remercie pour l'article qu'elle a fait sur Le Berry Républicain. Et on va passer le générique de fin qui est. Donc, c'est un groupe australien, In Excess. Alors, je ne sais plus, c'est Questions. Alors, le temps que ça démarre, je vais éteindre les micros de nos invités parce que sinon, ils commencent déjà à parler. Et je vais lancer donc. Si ça démarre, on va voir si ça démarre. Voilà, je l'ai lancé, mais ça ne démarre pas. Alors, il faut que je continue à parler et j'essaye de faire démarrer. Non, ça ne marche pas. Donc, je vous montre deux petites secondes et on va démarrer le CD. C'est vrai qu'on travaille avec du matos un peu usagé, mais je pense que ça va démarrer. C'est parfait, c'est démarré. Ça va de moins en mieux, on peut dire de moins en moins pire. À bientôt, peut-être au mois prochain sur Radio Tintouin.